pas de thème ce matin.
Il y a un thème, mais...
Il est parti, je ne sais où. On ne l'entend pas. Oui, oui, on a un thème, mais pour l'instant, on dirait qu'on n'en a pas. Mais je vous dis bonjour. C'est peut-être parce que c'est la journée de la procrastination aujourd'hui. Le thème a pris une pause.
J'espère mais que non.
On ne sait jamais. Alors, si vous le retrouvez, vous me ferez signe, Mathieu. De toute façon, on va se reprendre demain, c'est sûr. Mais on est là, c'est ce qui compte. 25 mars 2026. Qu'est-ce qui se passe le 25 mars 2026?
Je ne sais pas, il y a des problèmes en tout cas.
On souhaite un bon anniversaire à Jeannette Bertrand.
Oh.
101 ans, Jeannette
wow.
Bertrand. Et j'en ai pas entendu parler, mais moi, j'ai vérifié les dates d'anniversaire, puis j'ai vu ça. Je suis en train de me péter les bretelles. Mais c'est important de le souligner, parce que l'année passée, quand elle a eu 100 ans, je pense qu'on l'a su. 101 ans, on le sait moins, mais c'est quand même impressionnant. Et cette dame est toujours impressionnante et vraiment active dans sa société. C'est un bel exemple, quoi. Et celle qu'on a entendue, je sais pas, là, balbutier ou s'exprimer sur le sujet, c'est Isabelle Falardeau qui est là. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle, est-ce qu'on vous entend?
Oui.
Vous aussi, vous avez décidé de procrastiner? Non, c'est parce que c'était un peu grichou, griché.
Ah, mais
coudonc. Hey! Les mercredis, des fois, sont hantés. Mais là, on vous entend bien. Et vous allez nous parler de choux aujourd'hui.
Mais oui. T'sais, j'ai pas pu résister à au titre de cet article, le chou aliment chouchou de 2026.
Oui, c'est charmant.
Et comme je cuisine beaucoup, beaucoup de choux en ce moment parce que, on se le cachera pas, c'est ce qu'il y a de moins cher en termes de légumes quand on fait nos emplettes. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, il y a plusieurs articles qui ont été écrits sur le chou. Alors, je suis pas folle. J'étais curieuse de savoir comment je faisais partie d'un trend, comme on dit à l'Académie française.
Faites-vous de la soupe au chou, vous?
Moi, je fais de la salade de chou, du chou braisé. Je fais de tout avec le chou.
Ah oui. Ouais. Bon, alors, peut-être qu'un jour, nous aurons la chance de goûter à vos recettes. Mais on ne fait pas partie de vos chouchous, par exemple, je pense.
Oui, quand même.
Qui sait? Alors, on salue nos amis qui ne sont pas là, mais qui sont à l'écoute, j'en suis convaincue, parce que on continue de communiquer avec eux. Serge Bradet, qui, lui, continue de se soigner à la suite d'une mauvaise sinusite. Et Daniel Lachance, notre chroniqueur musical, qui est avec nous une fois par mois maintenant. Et donc, on aura la chance de lui reparler, mais un peu plus tard. Lachance, je me suis rendu compte que j'avais fait un genou sans le savoir. Bon, alors, on parle de choux aujourd'hui et on parlera aussi de piano, la Journée mondiale du piano qui aura lieu le 29 mars. Il en sera question à l'émission avec une entrevue en compagnie d'Olivier Esmond White et aussi du film Jeunesse Au revoir Pluton qui va prendre l'affiche vendredi. On en parlera avec la réalisatrice Sariane Cormier. Et puis, c'est pas mal le programme d'aujourd'hui. On y va avec une chanson de Lou Adrian Cassidy pour ouvrir cette émission. On n'a pas de thème, mais on a des chansons.
Jamais tout à fait.
Adrienne Cassidy et sa chanson « Jamais tout à fait ».
Ni riches ni pauvres, des locataires veulent rester dans leur coopérative. C'est la une du Devoir d'aujourd'hui. Les fédérations de coopératives d'habitation sont farouchement opposées au projet de loi 20. Des locataires redoutent de perdre leur place en coopérative d'habitation en raison d'un récent projet de loi visant à en resserrer l'accès. Québec estime que certains d'entre eux ont un revenu trop élevé pour bénéficier d'un logement abordable. Mais les regroupements de coopératives lui répliquent que la mixité fait partie de leur ADN. Et demandent au gouvernement de ne pas s'immiscer dans leur fonctionnement. Pendant de nombreuses années, Daniel Miro, dis-je bien, a vécu de paye en paye. Depuis peu, ce résident de longue date de la coopérative Lézard, située dans le quartier centre-sud de Montréal, parvient à mettre quelques sous de côté en vue de la retraite. « Je commence à m'en sortir et là, je devrais payer une surcharge de mon loyer ou quitter mon loyer pour retourner dans le marché de la spéculation. » Ça ne règle pas le problème de la crise du logement si on fait replonger dans la précarité ceux qui s'en sortent, déplore-t-il. Une belle photo d'Élise Guilbeault dans son rôle dans La femme qui boit, film magnifique de Bernard Raymond. La femme qui boit, 25 ans de réminiscence, idyllique, l'actrice Élise Guilbeault est toujours aussi magnétique dans le tout premier long-métrage de fiction du cinéaste Bernard Raymond. C'est François Lévesque qui en parle dans le cadre de la série A Posteriori. Le cinéma se veut une occasion de célébrer le 7e art en revisitant des titres phares qui fêtent d'importants anniversaires. Toujours à la une du Devoir, fiasco, ça clique. Malenfant veut faire annuler le rapport Galant. Il juge que le rapport est irrémédiablement vicié car il n'a pas tenu compte de sa version des faits. L'ex-fonctionnaire au cœur du projet, ça clique, Karl Malenfant, se tourne vers le tribunal pour faire invalider la totalité du rapport Galant. Et puis, si on va du côté du Journal de Montréal, une très triste affaire, c'est la mort d'un tout jeune homme, victime à 19 ans, en République dominicaine. Il est tué pour son scooter. Des vacances, donc, qui virent au drame. Nous allons chercher un sandwich. Nous allions chercher un sandwich. Nous étions sur le retour à 30 secondes de l'hôtel et deux autres gars, sur une moto, nous ont dépassés avec un gun pointé sur nous. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il a dit et il a commencé à tirer, raconte Étienne Primo-Poitras, encore sous le choc. C'était lundi vers 5 heures du matin. Il conduisait un scooter en compagnie de son jeune frère, la victime, Tristan Primo-Poitras, qui prenait place à l'arrière. Le duo originaire de la municipalité de Sainte-Julienne dans Lanaudière a été surpris par deux assaillants. Selon le jeune homme, dans la vingtaine, il ne fait pas de doute que les deux suspects souhaitaient voler leur scooter. Ils ont tiré mon petit frère de 19 ans et ils sont partis. Tout porte à croire que les deux jeunes hommes se sont ainsi retrouvés à la mauvaise place au mauvais moment. Et selon Affaires mondiales Canada, 18 Canadiens ont perdu la vie en République dominicaine en 2025. Rien de rassurant. Et puis, je termine avec une autre nouvelle qui n'est absolument pas rassurante, même décourageante. Violence dans les écoles, les filles ciblées plus qu'avant. Une enquête faite auprès de milliers d'élèves à Montréal révèle une situation extrêmement préoccupante. Léa Carrier, dans La Presse, qui écrit que la santé publique de Montréal s'inquiète de la violence dans les écoles. Après une tendance historique à la baisse, de nouvelles données montrent qu'elle augmente et particulièrement à l'égard des filles. C'est un problème de santé publique, affirme Ariane de Palacio, agente de recherche à la Direction régionale de santé publique de Montréal, qui publie aujourd'hui un rapport sur la violence dans les écoles. Fun en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Parle du programme. Bon, excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon système.
Alors, ça va pas bien aujourd'hui, techniquement non. Parlant, mais on tient le fort, on est en direct. Hein. Et est-ce que Isabelle est là?
Oui, je suis là.
Oui. Bon, ben, parlons de chou tout de suite avec vous, mon chou.
Je profitais de la pause pour faire des recherches sur les semences de chou, donc je vais peut-être vous en parler parce que c'est peut-être une bonne idée de faire pousser le chou tant qu'à vouloir le manger. Mais bref, c'est ça. Ce que je vais passer en premier, c'est cet article-là qui a attiré mon attention, comme je vous disais le titre, « Le chou, aliment chouchou de 2026 ». Ça, c'est un article que j'ai trouvé dans La Presse sous la plume de Florence Doncos. C'était publié le 8 mars. Mais très peu de temps après, je suis tombée sur l'article « 3 variétés de choux à découvrir ». Ça a été publié deux jours plus tard. C'est sur le site Mordu de Radio-Canada, sous la plume d'Alessine Van Rassel, que vous connaissez peut-être en tant que épicurieuse. Elle a fait une chronique là, sur le site de Mordu. Et cette même Alessine a écrit aussi un autre article, « Le chou connaît son moment de gloire », ça datait de janvier. Donc, on parle vraiment, vraiment de chou. On est vraiment dans l'actualité en ce moment. Alors, si je retourne donc à ce premier article-là, on nous dit que le chou attire l'attention depuis le début de l'année. Et évidemment, on le connaît comme étant économique et polyvalent. On sait qu'on peut mettre ça dans plusieurs recettes. Mais évidemment, il fait aussi partie de notre patrimoine culinaire québécois. Et pour 2026, Pinterest a prévu que le chou allait être tendance.
Le chou tendance, toi.
Le chou devient photogénique parce que si vous n'êtes pas au courant, là, Pinterest, c'est vraiment des images à la base. La plateforme a vu les recherches concernant cette plante de la famille des brassicacées propulsées dans la dernière année. Et il y a des recettes de chou qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux dernièrement. Le Yamitsuki, qui est un plat japonais de chou addictif, selon ce dont on parle, c'est une recette qui a cartonné. C'est une salade de chou travaillée à la main qui est rehaussée d'ail, d'huile de sésame et de graines de sésame. Il y a aussi un chou cajun boil qui a ravi les internautes. J'ai trouvé ces recettes-là, mais c'était pas des choses qui... Dans le cas du chou cajun, j'ai vu c'est des vidéos qu'il fallait regarder, puis ça m'intéressait moins. Mm-hmm. Par contre, le Yamitsuki, j'ai fait ma version du Yamitsuki, là, donc je pourrais vous en parler si on a le temps.
Est-ce que c'est vraiment addictif?
C'est vraiment, oui, c'est vraiment délicieux. Ah, ouais. En fait, c'est le concept, c'est qu'on prend du chou, on le hache à la main le finement, en fait, utiliser une machine aussi, et ensuite on fait un mélange, une pâte. Donc, avec un mélange d'huile, d'épices. Moi, j'ai mis de la... qu'est-ce que j'ai mis comme épices? J'ai mis de la levure alimentaire parce que je trouve que ça donne un bon goût. Puis, j'ai mis de la poudre d'ail, du paprika. Et bref, j'ai mélangé ça. Puis ensuite, c'est qu'on masse le chou avec cette pâte-là. Donc, on le travaille, comme on dit. Quand on dit travailler à la main, c'est vraiment vrai. Ça ramollit le chou. Et ça lui donne une texture à cette salade-là qui est vraiment, vraiment agréable. Et le goût est vraiment addictif.
Ah, mais ça donne envie d'en faire.
Standard, on met un élément sucré là, comme du sirop d'érable ou des choses comme ça. Donc, évidemment, ça aide à l'addiction.
Si on aime le sucré salé.
Voilà. Et dans l'article donc dont je vous parle maintenant, on parle de cette chroniqueuse culinaire, Alison Van Rassel, qui a signé deux autres articles. Elle a remarqué l'été dernier que le chou était omniprésent sur les tables du Québec. Bon, elle dit que c'est un aliment qui coûte pas cher, qui est savoureux, qui se décline de mille et une façons. Donc, c'est pas surprenant. Aux États-Unis, le nombre de plats mentionnant le chou dans le menu des restaurants a augmenté de 20,65% entre octobre 2023 et octobre 2025, donc en deux ans. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir comment ils ont répertorié les mentions de chou. J'imagine que c'est les menus qui sont disponibles sur Internet. Là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est promené d'un restaurant à l'autre et qui a pris en note le mot chou, j'imagine.
En tout cas, quand on pense aux rôtisseries du Québec, là, pour ne pas les nommer, ça commence souvent avec une salade de chou, hein, depuis très, très longtemps.
Traditionnelle.
Ouais.
Oui, effectivement. D'ailleurs, on va en parler plus loin. Peut-être pas de ce restaurant chouchou, mais des salades de chou. On nous parle d'abord donc du chef chez Hogan et Beaufort, David Lepage. Il dit on essaie de travailler de plus en plus en saison et le chou est un essentiel en hiver. Si on veut s'éloigner un peu des légumes racines, mais le chou, c'est une belle option. Il y a aussi le restaurant étoilé Master, je ne sais pas si vous connaissez. Mm-hmm. Son chef propriétaire, Simon Matisse, privilégie les choux d'hiver qui sont récoltés plus tard en saison et se conservent plus longtemps durant la saison de froide. Donc ça, c'est vraiment une façon parce que cuisiner avec des légumes de saison en hiver, évidemment, on parle pas de juste des légumes qui sont cultivés en serre pendant l'hiver, c'est les légumes qui se conservent tout l'hiver. Là, on nous parle effectivement, évidemment, du fait que le chou est inscrit dans notre culture culinaire. Il est indissociable de notre patrimoine culinaire au Québec. On le connaît bien sûr dans les ragoûts, ses feuilles. Vous avez sûrement déjà mangé dans votre vie des cigares au chou,
enveloppés
dans des feuilles de chou. Et évidemment, râpés dans la salade de chou traditionnelle ou crémeuse. On nous parle de la rôtisserie La Lune, qui a notamment remis la salade de chou au goût du jour en offrant sa version.
Ah, elle semble tellement appétissante, là, avec les petits cornichons autour, là.
Ah, vraiment. Ils ont une option crémeuse et traditionnelle. Ou à la fois crémeuse et traditionnelle. Je ne sais pas si c'est la même salade, là, que les deux, qui regroupe les deux.
Ouais.
Et évidemment, on nous parle aussi de certains qui ont des mauvais souvenirs de choux trop bouillis et sans saveur.
Ouais. Ah oui, des bouillis avec du chou qui ne goûte rien, là, ça c'est insipide.
Ben, voilà, exactement. Moi, je suis d'accord. Là, puis bon, on a le petit mythe que ça fait péter. Je ne sais pas si c'est vrai. On n'en parle pas dans l'article. mais c'est intéressant de le mettre de l'avant et d'essayer de le travailler de différentes façons pour montrer ce dont on est capable. Ce qu'on est capable d'en faire, c'est Simon Matisse du restaurant Master qui nous dit ça. Pour Alison Van Rassel, le chou est aussi synonyme de cuisine québécoise moderne avec ses inspirations de différentes cultures. On parle évidemment de choucroute qui est implantée depuis longtemps, mais plus récemment le kimchi ou la cuisine libanaise. Depuis quelques années, le chou pointu, ça, c'est un des trois choux qui est mentionné dans l'autre article dont je vous ai parlé. Il est très apprécié apparemment par les restaurateurs du Québec. Et d'ailleurs, le New York Times a déclaré en août dernier, le produit le plus sexy à Londres est le chou pointu.
Le chou pointu, ça ressemble à quoi, ça?
Oui.
C'est pointu? Alors, c'est un chou qui est vraiment pointu?
Oui, oui, vraiment, vous irez voir, dans l'autre article, je vais vous rappeler le titre de l'autre article, mais vous allez voir une photo. Le chou pointu a une belle forme, une belle tenue, et il est propice à être portionné en quatre, apparemment. Donc, j'imagine ce qu'on veut dire, c'est qu'il se défait moins quand on le coupe en quartier, il reste plus ensemble plutôt que se défaire en feuilles. Ça, c'est David Lepage qui nous en parle. Donc, lui, il l'a servi dans un restaurant menu du Hogan et Beaufort, dont je parlais plus haut. On le faisait, là, vous allez avoir l'eau à la bouche, je suis vraiment désolée. On le faisait confire au gras de canard et ensuite cuire à la braise pour qu'il devienne croustillant.
Mais ne soyez pas désolée, on adore ça, avoir l'eau à la bouche.
Mais attendez, c'est pas terminé. Il était servi avec du canard et une sauce bigarade.
Bigarade?
Oui, là, je voulais aller voir c'était quoi, mais j'ai complètement oublié. Alors, je suis sûre que Mathieu peut faire une recherche, puis nous voir.
Hélène aussi, elle peut faire ça.
On va continuer à te parler.
OK.
Alison Van Rassel croit qu'on apprécie autant aussi le chou pointu parce qu'il est plus sucré qu'un chou ordinaire. Donc ça aussi, effectivement, ça doit contribuer à sa popularité.
Bigarade ou orange amère? Orange amère est un agrume réputé pour son amertume élégante et son parfum puissant issu du bigaradier. Alors, j'ai été plus vite que Mathieu parce qu'il est occupé ailleurs, lui. Il y a plein de machines à ranger en ce moment.
Oui, on peut se douter effectivement qu'il est débordé.
Oui.
Donc, c'est ça, on conclut en disant que, non, on conclut pas, mais on dit que le chou et toutes ses variétés se révèlent très polyvalents. Mastar, donc ce restaurant étoilé, proposait dernièrement un plat avec du chou mariné qui rappelait la choucroute, servi avec une feuille de chou grillé, un miso de topinambour, des topinambours et du foie gras.
Alors, me donnez le goût de manger une choucroute, ça fait longtemps, c'est bon avec le...
Mais on est
de
vraiment
saucisses.
Loin du vieux bouilli de nos grands-mères, hein, on peut dire
oui,
ça.
Oui, mais nos grands-mères, il y a des grands-mères qui faisaient du bon bouilli quand même, là.
Oui. Oh. Ma belle-mère fait une excellente bouillie. Il y a plusieurs restaurants qui proposent aussi des assiettes qui mettent en vedette de beaux quartiers de choux verts braisés. L'hiver dernier, un restaurant à Toronto, là, ça c'est Alison Van Rassel qui parle, un restaurant à Toronto m'a servi un chou saisi et braisé, déposé sur un yogourt frais de chèvre avec juste un peu de beurre noisette. Donc, vous voyez, là, les déclinaisons sont pratiquement infinies.
Ah, oui.
On peut juste faire aller son imagination. Et elle dit qu'elle avait été charmée par la simplicité des ingrédients qui avaient simplement été magnifiés. Le chou de Savoie est le fun pour sa tenue et sa couleur, note David Lepage. On peut l'utiliser pour faire un chou farci. Le chou farci, c'est un classique de la cuisine française, a été remis au goût du jour depuis le début du championnat du monde du chou farci en 2024.
Pourquoi vous riez?
On a même un championnat du monde maintenant. Non, mais c'est pas seulement un championnat du monde du chou, c'est un championnat du monde du chou farci qui existe depuis 2024. Et donc, en conclusion, le chou, c'est un super aliment, dans le sens que ça fait partie de notre terroir, de notre identité, et plus que ses valeurs nutritives, c'est le plaisir qu'on a de l'avoir dans
la
vie.
C'est pas pour rien, Isabelle, que les bébés sont nés dans les choux.
Effectivement. C'est pour ça qu'ils sont si bons, qu'ils sont si doux.
Oui. Et moi, je suis une amatrice parce que vous parliez de l'été où le chou est plus populaire. Je sais pas trop, vous avez évoqué la saison estivale, mais dans les cantines, on s'arrête et on mange des, entre autres, des hot dogs. Moi, je prends tout le temps un hot dog chou moutarde. J'en prends deux.
Oui. Avec
deux chou moutarde. Oui, de la cosla. Bien, chou moutarde, c'est ça.
Ça fait partie, effectivement, là, de toutes sortes de recettes de base.
Oui. Vous avez d'autres choses à nous dire à propos des choux? Trois variétés de choux à découvrir.
Exactement. Donc, si vous voulez aller voir, lire l'article au complet, c'est trois variétés de choux à redécouvrir. Donc,
on parle du pointu dans cet article-là.
On parle, oui, tout à fait. On commence par dire de la plaine allemande protégée par une indication géographique protégée aux fermentations coréennes. Le chou traverse les siècles et les cultures. Donc, il y a une indication géographique protégée du chou en Allemagne, apparemment. Et donc, trop souvent sous-estimé, il révèle pourtant finesse, complexité et modernité lorsqu'on s'y attarde. On vient de voir un peu de quelle façon. Et donc, on nous présente ici trois espèces de choux dignes de mention. C'est pas, vous n'allez pas nécessairement être surpris par le deuxième, mais le pointu, donc qui est le premier, le napa, qu'on appelle aussi le chou chinois, et le chou rave.
Ah, je connais le céleri rave, mais pas le chou rave.
Alors, c'est complètement différent, vous allez voir. Donc, on nous rappelle encore une fois dans cet article-là à quel point le chou traîne une réputation injuste, trop cuit, trop odorant, trop associé au potage d'hiver, ou au souvenir de quand on mangeait quelque chose de pas cher et que c'était juste le chou qu'on peut se permettre. Et pourtant, peu de légumes racontent aussi bien notre histoire alimentaire que le chou. Résilient, économique, nourricier, il traverse les saisons et les cultures sans jamais perdre sa pertinence.
Un
et
chou donc, résilient, toi.
Résilient, voilà. Ouais. Donc, Alison Van Rassel pose la question, et si le légume le plus sous-estimé de notre panier devenait finalement le plus pertinent? Moi, j'aime beaucoup ça. Elle nous parle, donc c'est ça le chou pointu qu'on appelle aussi sweetheart, cone cabbage ou hispy, H-I-S-P-I. Donc, il s'agit d'une forme de chou pommé, donc comme le chou en, le bon chou vert qu'on connaît, là, de la Brassica Oleracea. Il est reconnaissable à sa tête conique et à ses feuilles plus fines que celles d'un chou blanc classique. Domestiqué depuis des siècles à partir d'ancêtres méditerranéens, cette variété a été sélectionnée pour sa texture plus tendre et sa forme allongée. En Allemagne, donc, et c'est là qu'on nous parle de cette indication géographique protégée, dans la plaine du Filder, ça c'est près de Stuttgart, le Filderkraut, qui est le chou pointu local, bénéficie de cette indication géographique protégée. En cuisine, il cuit rapidement, il conserve une texture délicate et il développe une douceur naturelle. En fait, selon Alison, elle pourrait même dire que c'est une petite bombe sucrée. On peut le saisir à la poêle, le griller au four ou simplement le braiser quelques minutes. Il va révéler une finesse aromatique qui surprend. Le deuxième, vous le connaissez peut-être un peu plus, le chou Napa, qu'on appelle aussi chou chinois. Donc, c'est celui qui a des feuilles plus molles, plus douces. Donc, on peut le manger cru sans l'avoir fait mariner longtemps, puis il est tendre, là, contrairement au chou vert. Lui est originaire, comme son nom l'indique, des plaines du nord de la Chine. Et il est depuis des siècles un légume de conservation essentiel. C'est celui qu'on utilise pour le fameux kimchi, cette recette typique de Corée.
Oui, le chou fermenté. Là.
Et aussi pour une autre méthode de lactofermentation, les Hakusai no Tsukemono au Japon. C'est une autre tradition là, donc de transformation du chou par lactofermentation. Et on dit qu'elle est plus douce et plus proche du kimchi blanc. Mais, okay.
Il reste 30 secondes, mais continuez.
Pardon. Contrairement au céleri rave, on doit l'éplucher et à l'intérieur, vous avez une belle petite boule dont le goût rappelle un petit peu le brocoli. Ça, c'est pas l'article qui l'a dit, là, c'est moi parce que c'est un légume que je consomme quand même. Mais c'est ça, on l'utilise dans des recettes complètement différentes là, de celles de chou, mais il est vraiment très bon, autant cru que cuit.
Trois variétés de chou à redécouvrir et le chou aliment chouchou, c'était vraiment intéressant. Vous nous avez donné le goût de le découvrir ou le redécouvrir, ce chou. Merci Isabelle, et puis on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Oui, merci beaucoup, bonne semaine.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Lovely to Call You, c'est une chanson de Renzo Rivolta.
C'est The Talk of the Town, cela dit avec ironie ici. La vidéo en anglais du PDG d'Air Canada ne passe pas. Michael Rousseau n'a dit que deux mots en français dans une vidéo de près de 4 minutes. Mylène Crête en parle notamment dans la presse d'aujourd'hui. Manque de volonté ou manque de temps? Peu importe, la raison qui a poussé le PDG d'Air Canada à enregistrer une déclaration presque uniquement en anglais sur l'accident qui a coûté la vie à un pilote québécois. Sa vidéo est mal accueillie. Michael Rousseau est convoqué par le Comité des langues officielles de la Chambre des communes. « Hello, bonjour », dit-il d'entrée de jeu avant de faire le point en anglais sur l'accident survenu dimanche soir à l'aéroport La Guardia à New York. La vidéo, qui fait presque 4 minutes, se termine par « Thank you, merci ». Ce sont les deux seuls mots en français prononcés par le haut dirigeant, 5 ans après qu'il s'est engagé à apprendre la langue. C'est presque de la provocation, a réagi le député du Bloc québécois Mario Beaulieu lors d'une réunion du Comité des langues officielles de la Chambre des communes mardi. C'est un manque de sensibilité et de considération pour le français et les francophones. Et ça s'inscrit dans une série d'incidents vis-à-vis du français et du respect de la francophonie au cours des 5 dernières années, a rappelé pour sa part le député libéral du Nouveau-Brunswick, Guillaume Deschênes-Thériault. Les élus qui siègent au comité ont adopté une motion à l'unanimité afin que le PDG d'Air Canada vienne s'expliquer devant eux au plus tard le 1er mai. Il nous fait encore une fois la démonstration qu'il n'a aucun respect pour le français. C'est désolé le député conservateur Joël Godin, en entrevue quelques heures avant la réunion. Il a demandé que le comité entende des experts pour trouver des moyens de sévir. Malgré la modernisation de la loi sur les langues officielles, les élus constatent qu'ils ont peu de moyens d'agir. « Ça ne passe pas », a réagi le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, Jean-François Roberge. Je pense que ça aurait été la moindre des choses qu'il puisse s'adresser aux Québécois et particulièrement aux familles en deuil en français. Je signale à M. Rousseau que si jamais il y a des enjeux, il y a Francisation Québec qui est gratuit et accessible. Si jamais il y a des enjeux, il s'adresse à lui, à M. Rousseau. C'est Jean-François Roberge qui le dit. Un bon nombre de francophones partagent son indignation. La commissaire aux langues officielles a reçu 84 plaintes depuis la diffusion de la vidéo lundi après-midi. Comment est-ce que sciemment on peut accepter de ne pas respecter la loi? Demande Nicolas Béchev, l'un des plaignants. Le transporteur aérien est connu pour bafouer ses obligations en vertu de la loi sur les langues officielles. Air Canada, qui a son siège social à Montréal avec un avion qui part de Montréal, un pilote québécois, des agents de bord québécois, et tout est en anglais? On ne peut pas faire plus caricatural que ça, s'indigne-t-il. D'autant que Michael Rousseau n'en est pas à sa première controverse pour sa piètre maîtrise du français. En 2021, il avait livré un discours presque exclusivement en anglais devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le PDG avait par la suite jeté de l'huile sur le feu. Croyant faire un compliment, il avait affirmé aux journalistes qu'il vivait dans la métropole québécoise depuis 14 ans sans avoir appris le français, ce qui était tout à l'honneur de la ville. Cette première tempête linguistique avait généré près de 2700 plaintes, un record pour le commissariat aux langues officielles. La conclusion de l'enquête était que M. Rousseau n'avait pas pris les mesures nécessaires pour que les personnes présentes à son discours reçoivent l'information dans la langue officielle de leur choix. Le PDG s'était excusé et avait indiqué dans une lettre à ses employés qu'il avait embauché un professeur personnel pour apprendre le français. La maîtrise de cette langue devait également faire partie de son évaluation annuelle. Air Canada a des obligations et des responsabilités, et comme ministre des Transports, je m'attends à ce qu'ils remplissent leurs obligations, a réagi le ministre des Transports Stephen McKinnon à son arrivée à la réunion du cabinet mardi matin. Il a ajouté qu'il ferait en sorte que le transporteur aérien respecte ses obligations linguistiques sans préciser comment il s'y prendrait. Le PDG d'une 60aine d'années s'était dit désolé de ne pas pouvoir s'exprimer en français devant le Comité des transports de la Chambre des communes en 2024, même après avoir consacré quelques 100aines d'heures à l'apprentissage de cette langue. « Je continue mes cours, mais à mon âge, c'est difficile », avait avoué M. Rousseau. Il a suivi plus de 300 heures de cours individuels entre 2021 et 2025 et estime avoir consacré plus de 250 heures à réviser, à faire ses devoirs et à s'entraîner à parler la langue. le vice-président aux communications d'Air Canada, Christophe Hennebelle, reconnaît que le français du haut dirigeant n'est pas au niveau qu'il souhaiterait qu'il soit, surtout pour des messages aussi difficiles que celui livré après l'accident dans lequel deux de ses pilotes sont morts. Nous avons donc utilisé les sous-titres pour permettre à chacun de recevoir son message directement, explique-t-il. Il ajoute qu'Air Canada a communiqué toute l'information disponible simultanément dans les deux langues officielles, que ce soit sur son site Web, ses médias sociaux et par communiqué de presse. Article donc écrit avec la collaboration d'Hugo Pilon-Larose, signé Mylène Crête, publié dans la presse d'aujourd'hui. On écoute Oliver Jones et on parle de la Journée mondiale du piano qui aura lieu très bientôt, le 29 mars.
Thank you.
mon metteur en onde, Mathieu Tessier, me disait qu'il avait l'impression d'entendre deux joueurs de piano, quatre bras qui étaient au piano, tellement c'est époustouflant. C'est Oliver Jones qui jouait donc cette pièce classique. Oliver Jones, qui est le président d'honneur de la Journée mondiale du piano qui aura lieu le 29 mars à Montréal. Et à cette occasion, on va célébrer une innovation majeure pour le piano, le mécanisme Esmond White Action, ou Action en tout cas. Mais pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil, on l'a déjà entendu rire un peu, le président et fondateur du piano Esmond White, Olivier Esmond White. Bonjour Olivier.
Bien bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bien, merci de m'inviter.
Alors,
super gentil.
Bien, ça nous fait bien plaisir, d'autant plus que vous avez plusieurs choses à nous raconter. Là, on va parler évidemment de la Journée mondiale du piano qui va avoir lieu dimanche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses au menu, une super programmation. Mais d'abord et avant tout, racontez-nous un peu l'innovation, le mécanisme que vous avez inventé. Ça consiste en quoi exactement?
Oh boy! C'est fruit de 47 ans de recherche et développement.
Oh.
Donc, c'est pas quelque chose qui s'est improvisé, disons.
Non.
Ça a commencé aux États-Unis et puis par la suite, c'est venu au Canada pour le développement depuis les dernières 15 ans chez nous. Puis, on a eu énormément de soutien de la part du gouvernement, recherche et développement, investissement Québec, etc. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui s'improvise dans un atelier. Et je suis super content de dire que pour ce genre de choses-là, il n'y a pas meilleure place au monde que Montréal et Québec. On encourage beaucoup ce genre d'activité. Alors, qu'est-ce que ça consiste?
Ah oui, ça révolutionne ce mécanisme-là, paraît-il, l'univers du piano. De quelle manière ça révolutionne?
Mais en fin de compte, ça rend le mécanisme plus sensible que le mécanisme du piano à cœur. Et jusqu'à là, le piano droit, donc le piano qui va contre un mur, était relativement non musical comparativement au piano à cœur. Alors là, c'est un peu le contraire. La musicalité dans un piano droit peut être autant ou plus subtil encore que le piano à cœur. Ça ne veut pas dire qu'on a la puissance d'un 9 pieds, un gros piano de concert, mais la subtilité, le jeu, la musicalité, le plaisir, les émotions. Maintenant, ça passe, je dirais, un peu mieux sur le piano droit que le piano à cœur, potentiellement. Ouais.
Ah, mais ça ressemble à quoi, ce système-là? J'essaie de me le figurer.
Difficile, mais ça va être, on va avoir des exemplaires pour qu'on peut voir le mécanisme traditionnel côte à côte avec la nôtre. Et puis, c'est un système, c'est pas comme, en fin de compte, c'est plus simple, encore moins de composantes que le piano droit traditionnel, le mécanisme. Alors, c'est vraiment un système à qui imite tous les principes de ceux de piano à cœur. C'est un peu compliqué à expliquer ça.
Ouais.
Si ça nous a pris 47 ans, c'est parce qu'il y a énormément à comprendre.
C'est complexe.
C'est complexe, mais en même temps, une fois qu'on l'a, c'est une simplicité incroyable. Mais c'est une combinaison de simple, mais beaucoup de recherche.
Oui. Alors, ça change. Ben, j'ai lu que ça pouvait transformer la relation entre le pianiste, le toucher et le son.
Oui. Oui. Quand on joue le piano, c'est nos doigts qui joue sur un clavier et là, il y a un marteau qui frappe la corde. Et tout l'appareil entre les doigts et la corde, c'est le mécanisme. Et puis, un bon mécanisme, rendre l'expérience le plus facile et naturelle possible. Donc, quand on fait un geste avec notre doigt, c'est ça ce qu'on entend. Naturellement. Et c'est ça ce que ce mécanisme-là fait.
Okay.
C'est vraiment... Il y a du monde qui dit que c'est comme la membrane entre le son et le pianiste, c'est éminci.
Et
il n'y en a pas.
Olivier Esmond-White, est-ce que ce mécanisme-là va se retrouver dans tous les pianos de votre entreprise et aussi peut-être d'autres entreprises de pianos?
C'est dans tous nos pianos droits, oui. Avec peu d'exceptions, est-ce que ça va aller dans d'autres? Il y a des compagnies qui font du licensing pour nos brevets québécois-canadiens. Donc, oui, il y en a du licensing, mais pour le moment, on vérifie qu'au niveau industriel, que tout est en ordre.
Oui, oui.
La première fois qu'on va être capable de voir réellement ce piano industrialisé, c'est vraiment ce dimanche, au World Piano Day. Et puis, il y a quelque chose comme 27 musiciens tout le long de la journée qui vont jouer des concerts.
Est-ce que, justement, les pianistes qui font partie de la programmation, là, et non les moindres, est-ce qu'ils ont déjà essayé un de vos pianos avec ce système-là?
La plupart, oui. Quelques-uns, non. Du monde comme Greg et Richard l'ont déjà essayé.
Et qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il dit de ça?
Bien, s'il vient, c'est pour m'encourager parce qu'eux, ils considèrent que ce que je dis, c'est tout à fait juste. Oliver Jones et compagnie disent que c'est certainement le meilleur piano droit au monde.
Ah oui.
Oui, on est fiers d'avoir absolument, c'est sans aucun doute, c'est absolument le meilleur piano droit qui a jamais existé pour le toucher.
Bon, alors racontez-nous ce qui va se passer. Est-ce que vous jouez vous-même du piano, Olivier?
Oui, mais non. Quand je m'entoure du monde comme cela, non, je ne joue pas le piano, je pianote.
Bon, qu'est-ce que vous aimez dans cet instrument-là?
C'est les émotions. Quand on touche, on est inspiré. Quand on est inspiré, on a le goût de jouer. La musique, c'est une combinaison d'accords, de mélodies, de rythme et tout ça, mais surtout avec un but de créer des émotions ou de vivre des émotions. Alors pour moi, cet instrument-là, c'est ce qui m'épate le plus. C'est justement le plaisir pur de jouer là-dessus. C'est vraiment, c'est ma fierté principale, c'est ça.
Et
plus, ça se joue mieux, c'est plus vite, plus rapide, plus sensible, tout le reste, mais c'est les émotions qui comptent.
Oui. Alors, j'imagine qu'il y aura beaucoup d'émotions lors de cette journée mondiale de la radio. J'ai fait un lapsus. Ça existe, mais c'est pas cette date-là. Alors, c'est du piano. Le 29 mars, ça va commencer à 9 heures le matin jusqu'à 17 heures. C'est au 5445 Avenue de Gaspé pour ceux et celles qui ont la chance d'être à Montréal. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que le public est invité?
Oui. Alors, il y a deux composantes. Il y a le salon du piano où il y a 25 ou quelque chose comme ça intervenants pour parler de toutes sortes de choses connexes au piano. Par exemple, Alzheimer's et thérapie de musique ou la musique pour des jeunes enfants ou d'autres choses comme ça. Business, l'école de technologie qui vient de commencer au Cégep Saint-Laurent vont être là. Plein de monde comme ça. Ça, c'est le salon du piano. On va voir aussi...
Mais le salon du piano se déroule à l'intérieur de la Journée mondiale du piano?
Oui, dans le même édifice, ouais. Dans une autre salle.
Mm-hmm.
Il va avoir... et c'est gratuit. Et les concerts, c'est payant, mais très petit prix. C'est 25 $ taxes incluses pour un concert de 45 minutes avec généralement, c'est trois artistes de renom, tout style. Alors, et ça s'appelle le Piano Garage Band. Oliver Jones qui quitte la Place des Arts pour venir dans un garage, ben c'est vraiment où Grégory Charles et plein d'autres, ils sont habitués à les grandes salles.
Oui.
Et là, il vient sur le quai de Débarcadère dans notre édifice. C'est assez le fun.
Et est-ce que ce sont tous des pianistes professionnels qui font partie de la programmation? Je vois ici le nom de Lorraine Desmarais, Xavier Rousseau. Rousseau, qui est le fils de ma cousine, soit dit en passant, j'en suis très fière. Oui. Et il va y avoir que des pianistes qui sont...
Nathalie Choquette, évidemment, c'est pas pianiste, non. Elle est chanteuse. Alors, il y en a d'autres qui jouent violoncelle, etc. Il y a des trios à travers, parce que le piano, c'est pas juste un piano solo, ça accompagne toutes sortes d'autres instruments. Alors, c'est piano plus. Et à un moment donné, je pense qu'on va avoir 4 pianos sur scène. Ouais, donc...
Alors, bien, c'est très tentant. Et je vais vous dire, là, moi, Piano Esmond White, là, je n'avais pas entendu parler de cette entreprise-là. Et vous me dites que vous travaillez depuis 47 ans à construire cette innovation dont vous nous parliez en début d'entrevue. Ça veut dire que l'entreprise existe depuis des années et des années.
Oui, depuis 72. Je pense que j'entre dans quelque chose comme 54 ans de carrière à date et c'est loin d'être fini.
Ah oui. Et est-ce que c'est une entreprise familiale?
Non. J'ai mon fils qui travaille là-dedans, mais ça a commencé en 72 par moi-même. Ouais.
OK, en 1972, oui, ça fait quoi? 54 ans, oui, vous l'avez dit.
Oui. Ça fait un bout.
Oui, ça fait un bout. Et puis, pour ce qui concerne la Journée mondiale du piano, est-ce que c'est pas la première édition? Là? Il y en a eu d'autres aussi?
En fin de compte, à Montréal, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un salon du piano. Certainement, j'ai jamais entendu parler d'un piano garage band de ma vie. Mais il y en a d'autres activités. Par exemple, Grégory Charles fait une autre activité dans la même journée pour Journée mondiale du piano, qui est d'ailleurs la 88e journée de l'année à chaque année. C'est 88 notes dans un piano. Donc, c'est pour ça. Alors... il y en a des activités tout autour du monde, mais nous, on fait une affaire que je pense est plus importante que toutes les autres que j'ai entendu parler. Ça fait 150 ans qu'on n'a pas vraiment eu une innovation importante ou une invention importante dans notre industrie. Le dernier, autour de 1850.
Ah oui. Alors, pour les curieux, les amateurs de piano, pour tout le monde qui s'intéresse au piano, on les invite à participer à cette Journée mondiale du piano. Pour avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a une adresse Internet, un courriel? Comment on peut procéder?
Oui, on peut toujours regarder notre site piano EW pour piano Esmond White .com, piano EW.com.
EW, c'est EW?
Oui, EW, okay. Oui, je m'excuse.
Non, ça va, excusez-vous.
Je deviens anglophone.
Mais votre français est très, très bon, meilleur que celui de bien des gens.
Merci.
Oui, oui.
Alors, oui, on peut... les billets sont en vente sur le site de Eventbrite. C'est un autre nom anglophone. Oui. Alors, on peut chercher...
Eventbrite.ca.
Lequel qui nous tente. Et on cherche dans Piano Garage Band.
Parfait. Bon, bien, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Puis je vous souhaite une belle journée avec des beaux moments d'émotion et surtout beaucoup de monde. Au rendez-vous.
Bien, merci. Merci beaucoup.
Je parlais avec Olivier et non Oliver Jones. Oliver Jones qu'on a entendu tantôt, c'est Olivier Esmond White. Et puis, on va se quitter sur une qui fait partie de la programmation. C'est nul autre que Lorraine Desmarais, une autre excellente pianiste. Merci, Olivier.
Merci beaucoup.
Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Je sans doute sur une autre planète où l'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de près ni de loin. Où l'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès ni de près.
Promenade sur Mars, Offenbach, une chanson qu'on n'avait pas entendue depuis longtemps, mais qu'on redécouvre dans le film Au revoir Pluton, film jeunesse réalisé, scénarisé par Sariane Cormier, qui est au bout du fil. Bonjour Sariane.
Allô.
Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée d'intégrer cette chanson dans la bande originale du film?
Bien oui, c'est moi.
Mais c'est très agréable. Elle est au bon endroit, elle est bien chantée et ça nous fait plaisir de renouer avec ce succès d'Offenbach. Il y en a un autre aussi. Êtes-vous une fan d'Offenbach?
Je suis une fan d'Offenbach, mais aussi je suis une fan de la musique enregistrée live.
Oui, oui.
Promenade sur Mars, c'est comme ça qu'elle a été enregistrée. Donc, je trouvais que c'était une bonne manière d'honorer les arts vivants. Puis, tu sais, n'importe qui, n'importe quel âge, on ressent l'énergie de la chanson parce qu'on sent que c'est en spectacle. Donc, c'est complètement... Elle est parfaitement imparfaite. Là. C'est comme... c'est ça qui est bon. On sent dans le spectacle. Donc,
oui, c'est vivant. Moi, comme vous
exactement,
le disiez.
Je trouve ça absolument logique de la mettre dans le film.
Oui, une chanson qui a été enregistrée. En tout cas, la version était de 1979. et accompagné par le Vic Vogel Band au Théâtre Saint-Denis. Donc, ça nous ramène loin, mais c'est vrai qu'il y a une vibration tout autre qu'une chanson enregistrée sur un album, là, qui
peut
être...
En studio, oui.
En studio, qui peut être très bonne aussi. Oui, c'est ça, en studio. Alors, ouais. Sariane Cormier, moi, je vous connais à titre de comédienne, parce que vous êtes une comédienne diplômée du Conservatoire d'art dramatique depuis au moins 20 ans.
Oui, c'est ça. Ça fait 20 ans cette année. Oui.
Je me demandais, vous avez réalisé aussi des courts-métrages, donc à titre de réalisatrice aussi, mais qu'est-ce qui vous a fait passer de l'autre côté du miroir un jour?
Ah, mon Dieu, mais je dois dire que je suis vraiment reconnaissante d'être passée de l'autre côté du miroir. Pour aller vers le long-métrage, en fait, j'ai commencé à faire des courts-métrages avant même de rentrer au conservatoire, là, dans des kinos et des trucs comme ça, donc avant de faire mes premiers courts-métrages qui ont été financés, tout ça. Donc, le cinéma a toujours fait partie de ma vie. Puis de réaliser un premier long-métrage, c'est une grande chance, c'est un grand privilège qu'on a parce que ça reste du financement public, donc c'est une grande reconnaissance de pouvoir avoir accès à ce financement-là pour faire un film, évidemment.
Mm-hmm. Donc, vous avez eu envie donc d'aller plus loin. Est-ce que c'est le court qui vous a donné envie du long, finalement?
Ah, mais en fait, tu sais, comme je pense que le court, je crois pas. J'ai programmé longtemps les courts-métrages au Rendez-vous du cinéma québécois. Donc, je trouve des fois que le court, on pense que c'est une clé, une porte d'entrée vers le long-métrage. Puis, je trouve que le court-métrage est une forme en soi. Quand j'écrivais des courts-métrages, j'imaginais vraiment la forme dans une forme courte. Tu sais, comme j'avais une histoire à raconter qui durait genre 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Donc, c'est comme j'ai le goût de raconter une histoire de façon plus nouvelle comme par rapport au roman. Mm-hmm. Puis, pour l'histoire de Pluton, c'est arrivé comme naturellement que c'était une histoire de longue haleine, qu'il y avait des grandes courbes dramatiques à exploiter. Donc, ça a été pour moi logique que ce soit un long métrage, donc, et non un court métrage. Donc, l'histoire devait être longue, ne serait-ce que pour la diffusion, puis aussi pour raconter toute cette histoire-là en trois volets comme le film est construit.
Alors, Sariane, avant d'aller plus loin dans l'histoire de Revoir Pluton, on va partager avec les auditeurs et auditrices la bande-annonce qui nous donne le ton de votre film.
Parfait, merci.
Cérès, est-ce que tu penses que je suis assez grande pour être une planète officielle?
Longtemps, je t'ai cherché. Maintenant, je t'ai trouvé. Petite planète.
Je suis ici pour vous annoncer que nous sommes à la recherche de cette nouvelle planète.
Oh my galaxy.
Les conditions pour participer sont savoir danser, tourner, chanter et être d'une taille supérieure à cette tige.
Tu penses que je suis la pire planète de toute la galaxie?
Je crois que tu dois leur montrer qui tu es vraiment.
En tout cas, si je pouvais voter, je voterais pour toi. Acrostiche!
On dit acrostiche.
Et un, deux, trois, quatre.
Je sais que là-haut, elle nous regarde.
Je te connais, Pluton.
Concentre-toi sur ce que t'as de beau à offrir à l'univers.
Fier d'être un Pluton.
Rien va changer. C'est le problème. Un système solaire qui tourne pas. Comme c'est triste.
Il y a quelque chose qui cloche avec toi. Tout allait bien.
Alors, ça raconte quoi, Sariane, au Revoir Pluton?
Ah, ça raconte l'histoire d'une petite planète qui est Pluton, qui rêve de rentrer dans le Star System. Puis, pour rentrer dans le Star System, évidemment, elle doit faire une petite entourloupe parce que, naturellement, elle sait qu'elle est un peu trop petite.
Donc, Pluton, qui est le nom d'une jeune fille.
Qui est le nom d'une jeune fille, exactement. Donc, toutes les planètes dans le film sont jouées par des acteurs. Donc, la seule différence entre les humains et les planètes, c'est des paillettes. Oui. Donc, tout le costume des planètes, c'est juste... Pas juste, ce serait trop petit de dire ça, mais c'est des costumes de paillettes portés par les acteurs. Donc, la petite fille qui s'appelle Pluton rêve de rentrer dans le Star System. Elle fait une petite entourloupe. Puis là, elle finit parce que c'est pas un gros punch à donner parce qu'on sait que Pluton est devenu une planète officielle. Donc, Pluton rentre dans le système solaire, dans tout ce monde-là, et elle décide de devenir une star et elle le devient jusqu'à un moment où elle doit faire face à son destin parce que naturellement, on sait qu'il arrive quelque chose avec cette petite planète-là.
Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Êtes-vous une amoureuse de l'astronomie?
Ah oui. Oui, j'ai eu mon premier télescope quand j'étais enfant. J'ai même cette belle photo de moi à Noël qui avait reçu le télescope de mon père, là. Donc, j'ai toujours été fan d'astronomie. J'adore. J'ai été visiter tout. À chaque fois que j'arrive dans un pays où il y a un observatoire ou un truc comme ça, j'y vais. Donc, je suis vraiment très fan de l'espace. Je trouve que l'espace me fait vraiment du bien. Je trouve qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, des fois, de se sentir un peu petit, ça donne un bon sentiment d'humilité puis un bon sentiment de à quel point on est précieux sur la planète Terre. Donc, je trouve qu'il y a quand on regarde l'espace, on se rend compte à quel point ce qui se passe sur cette planète, c'est précieux. Donc, moi, ça me fait du bien de penser à ça, surtout dans des moments où on sent qu'il y a beaucoup d'insécurité sur la planète. Donc, on dirait que l'espace, c'est aussi la fascination de l'espace, mais aussi notre rapport à nous sur la Terre par rapport à l'espace.
Et Sariane Cormier, dans le dossier de presse, on décrit votre film comme une comédie jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord, à l'aise avec cette appellation?
C'est une comédie jeunesse. Moi, je dirais que c'est une comédie musicale, mais plus un film avec de la musique dedans. Mm-hmm. Tu sais, je m'inspire vraiment beaucoup quand j'ai enseigné au cégep ou quand j'ai fait des formations aussi. J'enseignais aussi avec Québec Cinéma avec des jeunes, mais le rapport au jeu chez les jeunes, tu sais, donc la manière de chanter, de danser, d'aller chercher l'imperfection et la joie qu'on a quand on crée, quand on est plus jeune, quand on devient plus vieux et plus professionnel. Il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais d'aller chercher cette liberté-là, la place même qu'on peut en mettre dans notre vie au parascolaire. Donc, il y a comme une notion très parascolaire dans la manière d'imaginer les spectacles du film, mais c'est l'importance du jeu. Donc, moi, je vois ça comme un film qui porte là-dessus sur les arts vivants puis sur l'importance de les mettre dans notre vie. Puis c'est comme ça que je l'ai abordé. Donc, est-ce que c'est une comédie jeunesse, oui, qui aborde le théâtre, qui aborde le chant, qui aborde la danse, l'importance que ça peut avoir dans nos vies.
Et je crois que votre film a été présenté au FIFEM.
Oui.
Le Festival international du film pour enfants de Montréal. Il a été reçu comment?
Ah, très bien.
Oui.
C'est une très belle première. Qu'est-ce qui est chouette, ce que j'ai senti, surtout à la première, c'était qu'il y avait vraiment un bon rapport entre les parents et les enfants. T'sais. On dirait que c'est comme ça que j'aime ça créer. T'sais, j'avais déjà fait une pièce de théâtre qui s'appelait Julie, qui a été présentée à la Licorne, que je trouvais que c'était une bonne pièce pour une date adolescent et parent. Et puis Pluton, cette fois-ci, je trouve que c'est vraiment une bonne date pour les parents et leurs enfants. J'ai créé le film pour créer des clins d'œil autant pour les parents, qu'il y a des blagues pour les parents, il y a des blagues pour les enfants, puis de plusieurs âges aussi. Je l'ai créé un film pré-ado, donc des fois, je parle beaucoup aux 8 ans, des fois, je parle beaucoup aux 12 ans. Donc, tu sais, on dirait que j'ai créé ce moment-là où on peut emmener nos enfants au cinéma, mais aussi avoir du plaisir nous aussi. Puis après, quand on marche, on peut avoir des discussions après le film, tu sais, de parler de l'espace, parler de l'environnement. Donc, j'ai créé le film aussi pour stimuler le dialogue qu'on peut avoir avec nos enfants quand on fait une sortie culturelle.
Et je dirais que c'est réussi. C'est ce qu'on aime aussi des films jeunesse, hein, quand ça rallie tout le monde, finalement, avec plusieurs couches de sens ou plusieurs portes, plusieurs clés. Comment vous avez trouvé la comédienne qui interprète Pluton, que j'ai trouvée absolument irrésistible? Elle s'appelle Sarah-Jeanne Audette.
Ah, Sarah-Jeanne, elle s'est présentée en audition, c'était via son agence. Elle venait de rentrer dans une agence, ça faisait genre quelques jours. C'était sa première audition à vie. Elle a ouvert la porte, elle était complètement Pluton. on est tombé sur son charme, dans toute son professionnalisme, dans toutes ses maladresses, dans tout son côté humain qu'elle a, que j'étais complètement charmée. T'sais, ce que vous voyez dans le film, c'est complètement Sarah-Jeanne avec toute sa rigueur aussi. Là. C'est une très bonne jeune comédienne, mais elle a cette fraîcheur-là qu'elle possède en elle qui nous donne envie de créer autour d'elle, de s'amuser en improvisant, de s'amuser en chantant. Puis c'est comme qu'elle relevait les défis qu'elle avait à relever pour son rôle, mais d'une façon tellement mature, mais en même temps tellement parfaitement imparfaite. C'est un gros coup de cœur. Je l'adore.
Ah oui, elle est adorable et elle est bonne aussi. Elle joue avec beaucoup de justesse. Et son amie est Cérès, c'est Zachary oui. Bell-Arby. Lui aussi a une belle présence là, à l'écran.
Ce qui est très drôle avec Zachary, c'est que Zachary est un danseur professionnel. Il avait auditionné pour un rôle de danseur, mais à chaque fois qu'il me parlait, c'est complètement Cérès. Donc, c'est tellement drôle de voir Zachary ne pas danser dans le film. Il y a des gens qui pensent, vu qu'il a fait Révolution, il allait faire des grands moments de danse. Mais non, je l'ai pris pour ses talents d'acteur.
Et vous avez, je pense, fait le bon choix. On aurait aimé ça peut-être le voir danser, mais ce serait peut-être dans un autre film, qui sait, ou dans un autre spectacle. Est-ce que c'est difficile de trouver des jeunes qui jouent bien?
Ah, mais moi, ce que j'aime, tu sais, surtout chez les jeunes, c'est d'aller les chercher tels qu'ils sont, tu sais. Donc, la plupart des acteurs, en audition, on a déjà eu un coup de cœur directement quand ils ont ouvert la porte ou ils se sont présentés à nous en self-tape, les vidéos pour se présenter. Le but, comment je travaille, c'est que je me sers de qui ils sont, la matière première qu'ils sont, puis c'est de travailler avec eux comme d'égal à égal. T'sais, c'est pas parce qu'ils sont des enfants qu'il faut les traiter différemment. Bien sûr, il faut les protéger parce qu'on fait travailler des enfants. Ça, il faut jamais l'oublier. Mais en leur donnant un terrain de jeu très protégé, puis après ça, en les respectant dans leur âge, dans leur art, c'est le fun de créer ensemble puis de bâtir le projet à partir de leur vitalité profonde. C'est comme ça que je travaille, en tout cas.
Leur vitalité profonde. On sent aussi leur plaisir profond de jouer dans ce film. Au revoir, Pluton, par Sariane Cormier, réalisé et scénarisé par Sariane Cormier, qui prend l'affiche vendredi. Merci pour cette entrevue, puis bon succès avec ce film, Sariane.
Merci beaucoup, merci.
À la prochaine.
Au revoir.
Du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Une nouvelle tirée de Franco-Presse qui parle du programme Entrée Express, qui n'est pas le meilleur outil pour l'immigration francophone.
Oui, ce programme-là a été créé en 2014. C'était par le gouvernement Harper. C'était pour rattraper le retard dans les demandes d'immigration qu'on dit économiques. Là, il y avait vraiment une longue liste d'attente. On voulait accélérer un peu l'acceptation de ces gens-là qui pouvaient venir au Canada travailler. En 2023, le gouvernement a décidé de l'utiliser pour augmenter l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Donc, en chiffres, c'est que le programme accueille par année environ entre 100 et 110 000 personnes à déposer une demande de résidence permanente par année. En 2023, 8 % de ces offres ont été faites à des francophones. En 2024, c'est monté à 24 % puis en 2025, l'année dernière, c'était 42 % des demandes faites, des offres faites à des francophones. Le ministère nous a répondu que pour les prochaines années, on vise au moins 30 % de francophones aussi. La façon qu'Entrée Express fonctionne, c'est que c'est basé sur un score sur le capital humain, c'est-à-dire qu'on prend en compte la formation, les connaissances et l'expérience personnelle des gens pour voir qui est les meilleurs candidats pour venir au Canada. Les plus hauts pointages reçoivent normalement des invitations, mais selon le nombre de personnes qu'on invite, bien, le score minimum va descendre parce qu'on agrandit l'échelle de la fourchette de demande. La catégorie des francophones est souvent, à cause de ça, parce qu'on a augmenté le nombre, un score minimum qui est plus bas que les autres catégories dernièrement. Parce que les consultants anglophones, les consultants d'immigration anglophone à qui j'ai pu parler puis qu'on a entendu en comité parlementaire, c'est qu'en donnant la priorité à des francophones comme ça, selon ce qu'on voit dans les scores, c'est qu'on invite des gens moins compétents au Canada. La Fédération des communautés francophones et acadiennes et une chercheuse en immigration à qui j'ai parlé contredisent cette idée-là. On dit que les communautés francophones ont des besoins d'emplois différents. C'est pas en sciences ou en mathématiques ou en technologie nécessairement, mais ça veut pas dire que c'est des gens qui sont moins compétents. Malgré ça, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, puis aussi les consultants anglophones et la chercheuse à qui j'ai parlé, ont parlé de la même opinion, c'est-à-dire qu'il faut un système séparé pour l'immigration francophone au Canada. Le gouvernement s'est engagé à le faire dans sa politique d'immigration francophone adoptée en 2024. Donc, on attend vraiment la suite, le développement de cette voie-là.
La Nouvelle-Écosse perd trop rapidement ses jeunes infirmiers et infirmières. J'imagine bien, on en parle dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.
Selon l'Institut économique de Montréal, en 2023, pour chaque 100 infirmières et infirmiers de moins de 35 ans qui entraient sur le marché du travail dans cette province-là, il y en a 57 qui quittaient la profession ou la province. C'est une augmentation de 23 % par rapport à ce qu'il y a 10 ans. L'organisation du travail dans ce système de santé-là en Nouvelle-Écosse serait trop rigide avec des horaires imprévisibles puis des heures supplémentaires involontaires que chaque infirmier et infirmière doit faire. Le courrier a parlé à quelques personnes qui sont passées par le système puis qui ont décidé de partir. Pour la plupart, ils disaient espérer y trouver un système accueillant avec des équipes soudées puis un environnement où les compétences seraient reconnues. Ce qu'on peut plutôt trouver, c'est un labyrinthe administratif, du stress permanent, des journées interminables, puis où ils finissaient par se sentir isolés. Les nouveaux arrivants sont particulièrement touchés dans toute cette situation-là parce qu'il semble plus difficile en Nouvelle-Écosse de faire reconnaître sa formation et ses compétences acquises dans d'autres pays. Donc, ils quittent souvent parce qu'ils voient que dans d'autres provinces, ça va être plus facile de faire reconnaître leurs compétences. Puis selon les chercheurs, bien, il faudrait une réorganisation importante du système de santé pour surmonter cette crise-là, surtout que, bien, comme partout ailleurs, la population de la Nouvelle-Écosse vieillit rapidement.
Par ailleurs, dans le droit, le quotidien linguistique des agriculteurs francophones se passe en anglais.
Oui, puis on pense pas nécessairement toujours à la langue quand on parle d'agriculture. On imagine souvent un agriculteur dans son champ, mais ils doivent faire affaire avec des fournisseurs et des acheteurs, donc il y a des relations d'affaires dans tout ça aussi quand même. Puis cette question-là a été soulevée, c'était une partie de la discussion lors de la conférence Agricité qui est organisée par l'Union des cultivateurs franco-ontariens à Ottawa la semaine dernière. Ce qu'on dit, c'est que dans l'Est de l'Ontario, même s'il y a de nombreux agriculteurs franco-ontariens qui fonctionnent en français sur leur ferme, quand ils font affaire avec le secteur privé, bien, ils doivent passer à l'anglais. Ça devient plus compliqué de prendre des décisions si on ne comprend pas parfaitement les termes techniques et les enjeux qui sont devant nous ou les options qu'on a. Ça ajoute à ça un plus grand isolement aussi, surtout dans les autres régions de la province où il n'y a pas nécessairement des grandes communautés d'agriculteurs francophones. C'est plus difficile de se rencontrer dans ces régions-là puis de parler en français entre agriculteurs. Il y a aussi, par contre, des technologies qui sont seulement disponibles en anglais, mais il y a des compagnies québécoises et européennes qui commencent à développer des produits au moins bilingues, mais où l'interface est disponible en français. Il y avait le commissaire au service en français de l'Ontario qui était à conférence-là, Agricité, puis qui a rappelé aux agriculteurs que lorsqu'ils font affaire au gouvernement ontarien, au moins ils ont des droits, ils ont le droit de demander des services en français.
Le gouvernement manitobain trace la voie vers une province bilingue. Cette fois, c'est dans la liberté.
Le gouvernement a profité de la journée de la francophonie le 20 mars dernier, vendredi, pour présenter les résultats de la consultation qui a eu lieu au cours de la dernière année pour mener le Manitoba pour devenir une province bilingue. La population a été consultée à travers des sondages, des tables rondes publiques, puis des rencontres avec des organismes. On pouvait aussi déposer des documents écrits. Pour les répondants, selon ce qui a été présenté cette semaine, c'est les résultats de tout ça. Selon les répondants, une province bilingue signifie surtout l'accès à des services en français, une égalité entre les deux langues dans la sphère publique, puis tout ça surtout en éducation, en santé et dans les services gouvernementaux. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'on craint que le contexte socio-culturel, le coût de la mise en œuvre et le manque de volonté politique pourraient être les obstacles principaux à l'atteinte d'une province bilingue. Il y a quelques points plus concrets aussi qui ont été identifiés, par exemple, régler la pénurie d'enseignants francophones, il y en a eu aussi, d'avoir plus d'emplois en français pour les immigrants francophones qui sont invités à venir s'installer dans la province. Puis inclure les langues autochtones aussi dans la réflexion pour éviter de répéter certaines erreurs du passé. Les prochaines étapes dans tout ça, c'est la création d'un plan qui va avoir lieu d'ici le mois de mai. Ensuite, on veut faire d'autres sessions de travail pour approfondir les thématiques et ce plan-là pour en arriver à la rédaction de la première version de la stratégie de bilinguisme qui pourrait être déposée d'ici la fin de l'année pour finalement, ce qu'on aimerait, c'est présenter la version finale de la stratégie à la Journée de la francophonie de 2027.
On le souhaite. Parlez-nous maintenant, Julien, de l'Inuktitut.
L'Inuktitut, c'est l'ensemble des langues inuites qui sont en fait des langues officielles au Nunavut. Puis on pense souvent que
On sait que le français est menacé en Amérique du Nord, mais on se rend compte ici qu'il y a d'autres langues qui le sont, dont les langues inuktitut. Puis la langue majoritaire au Nunavut, elle est la première langue apprise par 62% de la population. Par contre, ce que s'est rendu compte Statistique Canada, c'est que son usage dans la vie de tous les jours a diminué et rendu autour de... est utilisé par 42% de la population à peu près. La langue fait face à des défis très similaires à d'autres langues minoritaires. Par exemple, quand la famille a des parents qui ne parlent pas tous les deux l'inuktitut, qui n'ont pas cette langue-là comme langue maternelle, il y a moins de transmission qui se fait aux enfants. Donc, il y a moins de jeunes de familles exogames qu'on appelle qui apprennent ces langues-là. Il y a des pénuries d'enseignants qualifiés, évidemment, et de matériel scolaire. Et il y a la présence importante de l'anglais sur plusieurs plateformes. Selon le gouvernement territorial, pour inverser ce déclin linguistique-là, ça va passer par une coopération soutenue entre les institutions et les organisations inuites et le gouvernement fédéral. Une petite lueur d'espoir dans tout ça, il y a en janvier 2025, la chaîne télé Uvagut TV a été lancée, qui a permis de mettre plus de ces langues inuktitut-là sur dans l'espace numérique et médiatique.
Et pour terminer, le Nouveau-Brunswick accueille un film dont le titre va certainement faire couler beaucoup d'encre, un titre, certains diront inusité, provocateur, audacieux, vulgaire aussi, Le trou de cul du monde.
Oui, et c'est un film actuellement en tournage dans la péninsule acadienne. Il est écrit et réalisé par René Blanchard, qui est originaire de la région et qu'on a aussi connu avec la série sur
Gabriel Roy.
Oui, merci, Gabriel Roy. Je l'avais sous le bout de la langue. C'est la plus importante production jamais tournée au Nouveau-Brunswick avec un budget de 4,3 millions de dollars. L'équipe de tournage est composée presque de part égale de Québécois et de francophones du Nouveau-Brunswick. Puis, on le voit aussi un peu dans la distribution. Le film en vedette Christine Beaulieu, qu'on connaît pour L'œil du cyclone. Mais on y voit aussi Pierre Verville, Marie Tifot, Robin Joël Cool et Christian Essambre, les deux derniers étant des Acadiens.
Très belle distribution.
Oui, puis il y en a plus que ça. Je vais juste dire les noms que moi, je connaissais. Le film, c'est une comédie dans laquelle une autrice à succès est ramenée de force dans son village natal où elle n'a pas remis les pieds depuis des années là, parce qu'elle ne voulait pas vraiment y aller.
D'où le titre.
Exactement. Je pense que c'est ça le lien avec... C'est peut-être elle qui a fait ça comme ça. Ça va être à l'affiche dans les cinémas en 2027.
On va surveiller ça. Merci beaucoup, Julien. Bonne journée, puis à la prochaine.
À la prochaine.
C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute, chers auditeurs et chères auditrices. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée, un beau 25 mars. Bonne fête encore à Madame Bertrand. Merci Mathieu. On se retrouve demain.